Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'Histoire et de Contes, un programme entièrement consacré à des auteurs d'Iowa et des environs et disponible sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, Jean-Claude Rouchouze, fort du plaisir de sa première expérience, nous propose à nouveau trois de ses nouvelles. L'animal du col de Prémol, La beauté du monde et Le pavillon de l'enfance. Je vous souhaite donc d'apprécier cette lecture offerte et vous dis à très bientôt sur RDIWA. Bonne écoute.
L'animal du col de Prémol. Je marchais seul par un petit matin frais de septembre, à la lisière de la forêt de pins, à l'affût de la moindre piste chevreuil. Je les avais repérés à l'aube, une petite harde méfiante dirigée par une vieille femelle qui me narguait depuis plus d'une année. Mais où était-il donc passé? La vue était superbe. Au loin, la montagne d'Oslon. En contrebas, le col avec son ruban noir incongru, ses ravines de marne blanche parsemées de lavande, de thym et de catanance. Je ne laissais aucune trace sur le sol grâce au coussinet de mes pattes. De temps en temps, je m'amusais à bondir. J'étais capable de franchir 7 mètres d'un seul coup. Même le grand loup du plateau d'Ambel ne pouvait m'égaler. De toute façon, nous nous évitions soigneusement. Nous n'avions pas les mêmes proies. Moi, je préférais les tendres chevreuils, les succulentes biches, le menu fretin habituel, campagnol, musaraigne, lièvre, écureuil, hérisson, sans négliger un marcassin de temps en temps. Lui recherchait chamois, bouquetins, marmottes et parfois même quelques moutons. C'est l'arbin frisé de l'animal. Et voilà que, perché sur un grand conifère, je découvris justement que cet animal était là. Qu'est-ce qu'il était laid ! Mais qu'est-ce qu'il était laid ! Il avait perdu toute sa fourrure, il n'avait que quelques petits poils blancs sur les côtés et l'arrière du crâne. Le sourcil droit était un peu plus relevé que le gauche, comme si l'œil gauche s'efforçait de mieux voir. La peau nue du visage était ridée et plutôt blanche. Des plis se voyaient à la commissure des yeux et des lèvres. Le museau était étonnamment court, avec quelques poils clairsemés dans les narines. Les lèvres, bien que bien dessinées, étaient trop petites à mon goût. Vous allez me dire, mais comment faites-vous pour voir tous ces détails? Mais vous oubliez que j'ai un regard de lynx. Sa mâchoire était forte, carrée, mais les crocs étaient non visibles. Le cou était nettement marqué. Quant au corps, redressé, il dégageait les membres antérieurs qui se balançaient bizarrement dans le vide, le comble du ridicule. Il semblait avoir deux peaux, l'une de velours, comme les cornes d'un cerf, l'autre bleue dans sa partie antérieure. Les membres postérieurs, à double peau aussi, se terminaient par des formes rondes, étranges, d'où sortaient des fils. Il ne m'avait pas vu. Il inclina son tronc et ses 5 doigts sans griffes saisirent un champignon. Il mangeait comme les sangliers, ces brutes hirsutes, mais bon à consommer cependant. Il examina très soigneusement ce champignon, le humant, le palpant, le goûtant.
et recrachant même un petit morceau. L'animal était donc curieux et capable d'utiliser tous ses sens. Le champignon disparut dans un objet creux, bizarre, qui pouvait se détacher de lui. Il ne me voyait toujours pas car j'étais un peu plus loin, silencieux, en hauteur, sur la branche maîtresse d'un épicéa. Je le voyais de profil. Et soudain, je le vis pisser chez moi, sur mon territoire, dont j'avais soigneusement délimité les frontières en marquant les arbres de mes griffes, un territoire de 250 km². On devrait rayer cet animal de la surface de la Terre. Quel sans-gêne ! Il se retourna et je le vis se gratter le postérieur. Et je découvris qu'il clignait des paupières comme moi, mais ses yeux étaient verts alors que les miens étaient jaunes. Je restais songeur. L'animal, comme moi, urinait, se grattait, clignait. Serions-nous parents ? Aurions-nous de lointains cousins ? Il s'éloigna, cherchant ses champignons. Je le laissai partir. Je garde le souvenir d'un animal curieux, bien que laid. Moi, le lynx du col de Prémol, j'étais beau, félin jusqu'au bout des griffes, une fourrure tachetée, de belles oreilles redressées, terminées par une touffe de poils, des yeux en amande. Je croyais que curiosité et beauté allaient de pair, car j'étais beau et curieux. Il m'apprit que je me trompais et je lui en sus gré. La beauté du monde. L'aube se lève. Lentement, je bois l'eau fraîche et limpide de la Brette. Penché sur l'onde, de mes petits yeux chafouins, je regarde le balai silencieux des barbeaux méridionaux. Comme suspendus dans l'air, ils se croisent et s'entrecroisent. Leur corps moiré flotte au-dessus des tapis d'algues vertes incrustant les galets. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas senti. Il a tiré deux fois. Deux balles d'acier cuivré traversent mon corps, perçant estomac, poumons et artères. Le froid m'envahit. Deux ombres s'approchent. L'une me retourne. L'autre attache une corde à mon groin sanguinolent. Ils entreprennent de me traîner sur les galets pour me faire descendre le torrent. Je vois mon sang rougir l'eau pure derrière moi en formant de sombres traînées et mes pattes être parcourues de secousses indépendamment de ma volonté. Alors, je lève les yeux. Le ciel, d'un bleu d'azur, paraît lointain derrière la dentelle des feuilles. Les rayons du soleil composent un tableau de limbes argentées et de nervures radiées. Il y a les feuilles duveteuses et alternées des hêtres aux cils dorés, celles plus petites, luisantes et autoriférantes des buis. Orchis casqué et lichen gris perle se voient sur les berges. Plus haut, les aiguilles des pins découpent le ciel en myriades de traits sombres aux franges scintillantes. C'est un torrent primitif, baignant dans une lumière dorée. Il me croit mort, moi, le jeune sanglier des gorges. À l'aube de ma vie, mon corps est vaincu, mais pas mon esprit. Je suis vivant, hors du temps. Le cœur à l'envers, contemplant la beauté du monde. De ma carcasse noire, cet esprit s'élève Il disparaît dans l'azur, très loin, au-delà des étoiles. Eux restent là, ma dépouille à leurs pieds, triomphant et aveugle. Le pavillon de l'enfance. C'est la maison de mon enfance, mais je l'ai quittée depuis longtemps. Oubliez les terrains vagues qui l'entourent. Oubliez la salle à manger austère, la grande cuisine donnant sur le jardin aux fraises roses et aux groseilles à maquereaux, le cerisier au bigarreau où j'ai construit ma première cabane. Aussi, je décide d'y retourner. Après moult pérégrinations en voiture, je finis par la trouver. La route proche a perdu ses grands platanes. Les terrains vagues se sont peuplés de pavillons. La ville nouvelle de Marne-la-Vallée bruisse de modernité. Mais le château de la marquise de Pompadour se languit toujours au milieu de son jardin à la française. Je pousse le portail en bois des années 30 et monte les quelques marches permettant d'accéder à la petite terrasse cimentée. La porte est entrebâillée. J'entre. La maison est silencieuse. Les pièces sont vides. Et sur les murs, il y a des papiers peints jaunis aux roses pâlissantes. Le lino est fendillé, mais le parquet de chêne brille toujours. Je monte au premier étage dans ma chambre d'enfant. Il y a toujours le grand lit en ferronnerie blanche. J'y sautais dessus de loin en allant me coucher, ayant peur qu'un crocodile se cache sous le sommier. Mais là, il n'y avait plus ni sommier, ni matelas. Je me dis, le temps passe. Le silence est interrompu par un souffle d'air, malgré les fenêtres fermées. Je me retourne. Et dans ce qui était ma chambre, je vois entrer deux hommes. Ils portent des perruques et ils sont poudrés. L'un a un juste au corps de couleur lilas, l'autre de couleur bleue bordée de dentelles. Ils ont des culottes bouffantes et des brodequins à haut talon garnis d'une rose blanche en soie sur le dessus. À leur ceinture, il y a une épée dont la lame brille comme les pare-chocs d'une Chrysler. Le plus grand me dit « Savez-vous, se tient la réunion ?» Je réponds « Je ne savais pas qu'il y avait une réunion. » Son compagnon l'interpelle. « C'est certainement ici. Le centre nous l'a confirmé. C'est peut-être à la cave. Suivez-nous. » Je leur emboîte le pas, nous descendons. Ils poussent la porte de la cave et nous voilà tous les trois dans une immense salle voûtée inconnu de moi, où plus de 100 personnes discutent. Le spectacle est fascinant. Il y a là deux australopithèques tout petits, tout velus et tout nus. Leur langage est une série rapide de gargouillis, d'onomatopées et de sons gutturaux. Mais comme moi, ils sourient, parfois rient aux éclats, souvent clignent des yeux et relèvent leurs sourcils, aussi touffus que des branches de génévrier. Non loin, il y a un couple de Cro-Magnons, des sapiens. L'homme est de grande taille, la femme plus petite a une abondante chevelure brune. Il porte des vêtements de peau. L'homme sort un silex taillé d'un petit sac de cuir et le montre à sa compagne d'un geste admiratif. Mais elle ne semble pas l'apprécier. Il fouille à nouveau son sac et en sort une aiguille en os. Cette fois, elle examine minutieusement l'objet et brusquement s'approche de lui, l'embrasse sur le front et le bout du nez. Il lui tire les lobes des deux oreilles. Les tendres rituels des Cro-Magnons m'étonnent. Accoudé à ce qui semble être un bar, un Romain discute avec un Vauconce. Le Romain porte des chaussures de cuir à lanières. Ses jambes musclées sont recouvertes en haut par une jupe de lin grossier maintenue par une fibule. Plus petit et plus râblé, le Vauconce a un vêtement en fourrure d'ours du Vercors aux brillances cuivrées. Sa large ceinture supporte un sac à tête de renard dont le corps et les pattes pendouillent sur son côté droit. À sa gauche, dans un fourreau, il y a une longue épée au pommeau garnie de garras de diamants, de la Drôme, des diamants de la Drôme. Sur sa tête, il y a une étrange coiffure en sous-poil de castor. Leur discussion est animée. Curieux, je m'approche. Le Vauconce s'adresse aux Romains. « Maintenant, nous sommes en sécurité. Les remparts sont terminés avec leurs 17 tours. La porte de l'Est permet le passage des chariots. » Je comprends qu'il parle de l'enceinte gallo-romaine de la ville de Die. S'ils savaient que maintenant, une grande partie des remparts est détruite, ils seraient déçus. J'en suis là de mes réflexions lorsqu'une voix retentit dans la vaste salle, reprise en écho par les voûtes. « Retour au centre immédiatement pour tous. Retour au centre immédiatement pour tous. Retour au centre immédiatement pour tous. » Un vent se lève et je vois avec stupeur tous les coupes tourbillonner dans l'air. Une spirale se forme qui monte comme un cyclone inversé et tous disparaissent à son sommet dans l'éther. Je me retrouve seul dans la petite cave à pommes de terre de mon enfance. Je monte l'escalier et retrouve ma voiture. Ainsi, il existe un monde des esprits au-delà de notre quotidien. Mais me direz-vous comment y accéder? C'est très simple. Rêvez. Rêvez, car toute cette histoire n'était qu'un rêve.
Full.